France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Et au téléphone sonne ce soir la suite de notre journée spéciale. France Inter explore l'univers à l'occasion de la sortie aujourd'hui sur l'appli Radio France du podcast de l'astrophysicien Christophe Galfard intitulé « Les explorateurs de l'univers » et nous verrons que ce qui surprend encore les scientifiques, c'est de découvrir parfois autre chose que ce qu'ils avaient envisagé. Alors on va parler avec eux ce soir de leurs découvertes, du point sur leurs travaux. Nous leur demanderons par exemple ce que la géante et lointaine Uranus peut nous apprendre, combien d'exoplanètes ont été localisées à ce jour et que peuvent-elles nous révéler concernant une éventuelle vie hors du système solaire. Je précise que cette émission est aussi destinée aux enfants. On attend d'ailleurs leurs questions, pourquoi pas, alors qu'une partie de la jeunesse exprime sa défiance envers la chose scientifique. Comment leur parler de l'univers? Nous verrons ça dans un instant. Ce soir, France Inter continue d'explorer l'univers. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur, Thibaut, qui nous appelle de Rouen. Bonsoir Thibaut.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question.
Avec plaisir.
Elle est la suivante. Donc, en fait, on a coutume de dire que rien ne peut s'échapper d'un trou noir. Cependant, il est observé que lors d'une collision de tels objets, la masse du trou noir qui était formé était plus faible que la somme des masses initiales. Donc, a priori, masse perdue sous forme d'onde gravitationnelle. Donc, ma première question, c'est comment concilier ces deux résultats qui, a priori, sont contradictoires au premier point de vue. Et puis, de manière générale, hein, quels sont les mystères qui entourent encore ces objets qui sont énigmatiques?
Alors, je vous avoue que la question est un peu pointue pour commencer, mais on va quand même tenter d'y répondre avec ce soir trois invités pour vous répondre. Christophe Galfard, vous êtes donc auteur du podcast Les Explorateurs de l'Univers, disponible donc à partir d'aujourd'hui sur l'appli Radio France, tiré de la BD éponyme, qui était sortie l'an dernier, je crois, aux éditions Michel Lafon. Invite également Léa Gritton-Noël, vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, maîtresse de conférence à Sorbonne Université. Vous êtes l'autrice du livre intitulé « En quête de planètes » paru en 2023 aux éditions Quanto. Et puis Magali Deleuil, astrophysicienne, professeure des universités au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous êtes spécialiste des exoplanètes et vous avez été aussi coordinatrice scientifique de plusieurs missions du CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Et puis bien sûr, pour coordonner tout cela et répondre aussi pourquoi pas aux questions, Sophie Becherel, la chef du service Sciences, Santé et Environnement de France Inter. Christophe Galfard, je vais peut-être me retourner vers vous pour la première question de notre auditeur. Rien ne s'échappe d'un trou noir, dit-il, et après il nous parle de masse plus importante que d'autres. On va peut-être commencer par dire ce qu'est un trou noir, parce que ça est un joli mot, mais on ne sait pas très bien ce que c'est.
La question est jolie, en tout cas, et elle est totalement légitime. On a dans notre univers on a découvert qu'il y a plusieurs forces qui s'appliquent aux choses, qui peut être l'électromagnétisme, la gravitation, et puis il y a d'autres forces dans le noyau des atomes. Dans le très grand, c'est surtout la gravitation qui l'emporte. C'est ce qui fait que nous, on ne s'envole pas sur Terre.
Qu'on descend toujours.
Et dans l'espace, il existe des objets qui sont beaucoup plus denses que la Terre et dont l'attraction est donc beaucoup plus importante. L'extrême de ça, c'est ce qu'on appelle un trou noir. C'est un objet qui est tellement dense, qui a tellement d'énergie en lui, quelque part, qu'il va tout attirer vers lui. C'est un objet, on peut l'imaginer comme étant purement gravitationnel, qui avale tout. Et donc, qui, a priori, ne permet à absolument rien d'en ressortir. Il faudrait, quelque part, aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, d'un point de vue beaucoup plus général, on a démontré dans les années 1970 que les trous noirs n'étaient pas si noirs que ça, qu'ils s'évaporaient petit à petit. C'est un résultat d'un scientifique anglais qui s'appelle Stephen Hawking, et ça s'appelle la radiation des trous noirs, le rayonnement des trous noirs, c'est leur température qui fait ça. Maintenant, quand on regarde les trous noirs comme des objets purement gravitationnels, on peut voir, lorsque collision il y a, que même sans prendre en compte la partie quantique d'un trou noir, on peut voir que géométriquement, il y a une petite partie de la collision qui est éjecté, mais qui ne vient pas forcément de l'intérieur des trous noirs, mais qui est éjecté sous forme de vagues qui vont partir à l'intérieur de l'univers. Ce sont des vagues d'espace et de temps, c'est ce que disait le monsieur à la question.
Je vous remercie de vulgariser tout ça. Voilà. C'est un peu le pari qu'on a pris ce soir, de vulgariser cette
une première question costaud.
Mais la question était costaud pour une première. Léa Gritton, Noël, je rappelle que vous êtes astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Qu'est-ce qu'a apporté le télescope géant James Webb, notamment, pour localiser ces trous noirs?
Alors, pour les trous noirs, je ne saurais pas dire, très honnêtement. Le James Webb, c'est un télescope spatial qui regarde en particulier une lumière, qui est la lumière infrarouge, qui est très importante en astrophysique parce qu'elle permet d'accéder à des informations qu'on ne voit pas dans la lumière visible. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne mon domaine d'étude, donc le système solaire, en infrarouge, quand on regarde les planètes géantes, donc les planètes géantes, c'est Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, en fait, dans l'infrarouge, on a accès à des couches de l'atmosphère un peu plus profondes et dans lesquelles il y a des informations du coup, qu'on ne peut pas voir en lumière visible. Et donc, c'est par exemple une des choses qu'on peut voir avec le James Webb. Après, c'est aussi un télescope très puissant qui a nécessité de très nombreuses années d'investissement et de travaux, et donc qui nous permet aussi une très bonne résolution. Ça parle à tout le monde, hein, je pense, maintenant, la résolution. Donc on voit énormément de nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant parce que c'était pas assez précis.
Et Magali Deleuil, on va bien sûr parler ce soir de ce télescope géant James Webb. Il était moins borgne, moins en crise de myopie que son petit frère Hubble.
Oui, tout à fait. Non, il n'y a eu aucun problème. C'est un instrument absolument remarquable et qui est un cumul, j'ai envie de dire, ou rassemble plusieurs défis technologiques et qui fonctionne absolument remarquablement comme c'était prévu. Et donc, on ne peut que, d'ailleurs, féliciter toutes les équipes qui ont contribué à la réalisation de ce merveilleux instrument.
Oui. Sophie Becherel.
Peut-être que vous pouvez expliquer comment ça marche, en fait, le fonctionnement d'un télescope, au sens où est-ce qu'une équipe d'astrophysiciens peut dire « Ah ben moi, j'aimerais observer tel objet céleste dans le ciel, donc donnez-moi un certain nombre de nuits d'observation ». Comment vous partagez l'utilisation de ces très grands télescopes? Et le James Webb, il a coûté très cher, mais il sert finalement à tous les astrophysiciens de...
Oui, effectivement, c'est une des difficultés de notre métier. Hein. C'est vrai que quand on reçoit, justement, on parle de parler d'astronomie aux jeunes. Donc, quand on reçoit des jeunes à l'Observatoire de Paris, à Meudon, ils sont souvent très déçus, ils nous disent « Mais il est où votre télescope ?» Et nous, on dit alors soit moi, les miens, ils sont dans l'espace, hein, c'est des missions spatiales qui sont autour des planètes, mais ils sont sinon au Chili, ils sont dans l'espace, effectivement. Et donc, quand on est chercheur professionnel... C'est un petit peu triste à dire comme ça, mais souvent, on fait une demande en disant « je voudrais observer telle cible », on parle de cible en astrophysique, sur telle durée, pour telle raison, avec telle autre personne, ça, c'est pour répondre à telle ou telle question scientifique. Donc c'est pour ça qu'il faut être très bon, si vous voulez devenir scientifique, les enfants, il faut être très bon en négociation, il faut savoir argumenter, il faut savoir trouver les bonnes questions, et etc. Enfin, notre métier, de toute façon, c'est de trouver les bonnes questions, par définition. Et donc, comme ça, le problème, c'est qu'évidemment, tout le monde veut utiliser, alors tout le monde, tous les astrophysiciens veulent utiliser ce James Webb Space Telescope, donc évidemment, il y a de la compétition et donc il faut toujours très très bien justifier et parfois on n'a pas l'accès complet. Et donc, je pense à ça parce que par exemple, dans mon laboratoire, dans mon équipe, il y a une très belle découverte qui a été faite de la rotation d'Uranus, justement. Et pour ça, il faut regarder des observations des aurores sur Uranus, donc c'est les aurores comme les aurores boréales sur Terre, donc Uranus, c'est très loin, c'est à la taille d'une pièce de 1 ou 2 euros dans un télescope, donc au mieux. Et donc, mes collègues qui ont fait cette découverte, ils ont bataillé pour obtenir des observations du Hubble Space Telescope pendant une dizaine d'années, chaque fois qu'il y avait une tempête de vent solaire qui allait dans la direction d'Uranus. Et donc, ce n'est pas non plus tous les 6 du mois. Et donc, je ne vous raconte pas la patience qu'il faut et la persévérance pour faire cette demande de manière récurrente, avoir le peu de mesures qu'on peut avoir et finalement obtenir une très très belle découverte cette année.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Didier nous appelle de Pau. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Quelle est votre question ?
Voilà, donc je voulais vous poser une question. Donc aujourd'hui, on pose en fait la vitesse de la lumière comme une limite. Et je voudrais savoir si cette limite est posée par notre nos connaissances actuelles en matière de physique fondamentale, si en fait il y a des recherches qui sont effectuées pour dépasser ces modèles de physique fondamentale et nous amener à des vitesses de lumière qui ne seraient plus des limites, mais qui seraient donc des vitesses beaucoup plus importantes.
Merci de cette question. Je vais la poser pour commencer à Christophe Galfard. Pourquoi la vitesse de la lumière devient-elle une limite à la recherche ?
Alors figurez-vous qu'au départ, disons au début du XXe siècle, ça a été posé comme principe par Einstein. Du coup, ça rend la question totalement légitime. Si c'est un principe, est-ce que potentiellement dans la nature, on ne pourrait pas aller plus vite ? Et il se trouve que ce principe est tellement fondamental aux théories qui en découlent, qui sont les relativités d'Einstein par exemple, que dépasser la vitesse de la lumière signifie des choses assez extraordinaires. Par exemple, ça signifie remonter dans le temps. Ça signifie faire des choses qui sont un petit peu compliquées. Au final, lorsque on fait des expériences, on ne voit nulle part, jamais, quelconque indice que cette lumière, que cette vitesse puisse être dépassée par quoi que ce soit. Il y a quelques années des annonces qui avaient été faites, mais elles ont été invalidées quasi immédiatement derrière. Pour l'instant, ça n'existe pas. En revanche, ce qu'il est possible, c'est que cette vitesse varie. Non seulement elle varie déjà, on le sait qu'elle varie si on rentre dans la Terre, dans de l'eau, comparé à l'espace, la vitesse n'est pas la même. On a même des équipes françaises qui ont réussi à quasiment arrêter des rayons de lumière pour les étudier. Ça nous a valu des prix Nobel en France grâce à ça. Mais même dans l'espace, dans le vide, il est possible, ça fait partie des spéculations, qu'à une époque dans notre passé, la vitesse n'ait pas voyagé à la même vitesse que celle qu'on a aujourd'hui. Ce qui pourrait, pour
la lumière
certains...
n'a pas voyagé.
J'ai dit quoi, pardon ?
La vitesse n'a pas voyagé à la même vitesse.
La lumière voyage moins.
Que la lumière n'ait pas voyagé à la vitesse d'aujourd'hui. Ce qui pourrait expliquer pour certaines anomalies qu'on voit dans l'espace. Mais c'est évidemment de la spéculation. Mais donc, pour répondre à la question, rien ne nous indique qu'il est possible d'une manière ou d'une autre d'aller plus vite que la vitesse de la lumière.
Au standard, on avait promis une émission pour les enfants. Il y a Elian qui nous appelle de Toulouse. Elian, je me permets de te tutoyer, tu as 8 ans.
Oui.
Bonjour, et quelle est ta question ?
J'aimerais savoir comment mesurer la taille de l'univers.
Comment mesurer la taille de l'univers ? La question est très précise. Je vais me retourner vers Magali Deleuil, qui est astrophysicienne et professeure des universités au laboratoire d'astrophysique de Marseille.
C'est une question qui est vraiment compliquée. Je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour répondre à ce type de question. Moi, je travaille avec des objets qui sont très proches de nous, hein, même si peut-être... Pour nos jeunes auditeurs, ou même tout le monde d'ailleurs, ça reste loin. Mais alors, comment mesurer la taille de l'univers ? C'est pas du tout ce que je fais tous les jours, je dirais. C'est regarder les vitesses des objets, leur distance à nous, hein, en remontant dans le temps. Oui, je ne sais pas si Christophe a une réponse plus convaincante.
Oh, je vois les deux lever le doigt. Léa Gritton-Noël, comment est-ce qu'on mesure?
Je voulais dire que c'était une excellente question, que mes étudiants de Master 2, donc c'est 5 ans après la fin de l'école, donc c'est vraiment dans très longtemps pour l'auditeur, mais m'ont demandé une fois, est-ce que l'univers est fini ou pas, déjà? Parce que, donc fini, c'est-à-dire, est-ce que justement il a une fin, est-ce qu'il a une enveloppe? Eh bien, donc moi, je suis pas cosmologiste, contrairement à Christophe, donc qui répondra sans doute mieux que moi, mais ça m'a fascinée, du coup, en étant astrophysicienne, mais pas cosmologiste, de voir à quel point juste cette question de est-ce que l'univers est fini ou pas fait débat, au cours des siècles, hein, même, hein, depuis le début. Et donc, ce que j'ai retenu, et donc vous corrigerez ou pas, mais c'est que c'est un univers fini, mais sans bord. Ça m'a beaucoup fasciné. Voilà, donc je veux bien
univers
une explication,
fini,
moi aussi.
Mais sans bord, Christophe Galfard.
C'est drôle de dire ça parce que c'est une théorie de Stephen Hawking qui a la base de.
Et vous avez travaillé avec Stephen.
Voilà,
Stephen
la base de l'univers sans bord. Donc il y a pas mal d'images qui se peuvent être données pour l'histoire de l'univers. Mais on va essayer de répondre directement à la question de l'auditeur d'Elian. Lorsque on essaie de comprendre les choses qui sont énormes, qui sont colossales, comme l'univers, c'est hyper dur, c'est trop grand. Comment on fait ? Eh ben, on est obligé de simplifier. On ne peut pas partir et essayer de tout comprendre d'un coup, ça ne marche pas. Donc, ce que font les scientifiques, et les plus grands scientifiques, hommes et femmes, dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont été les meilleurs, c'est ceux qui ont réussi à le mieux simplifier les choses. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on voit que notre univers s'agrandit. Alors comment on voit ça? On voit ça parce qu'on voit que les galaxies, les étoiles lointaines, très très lointaines, s'éloignent de nous. Et on voit la vitesse à laquelle elles s'éloignent. Du coup, on arrive à faire des modèles. On arrive à deviner un petit peu, à prédire comment ce sera dans le futur, grâce à la façon dont ça bouge maintenant. Mais si on voit comment ça dans le futur, et ben on peut se dire « Ah, on peut faire le chemin à l'envers !» Et du coup, remonter dans le temps. Et on arrive à faire ça pendant un certain temps. Je vais te dire combien de temps. On arrive à faire ça pendant 13,8 milliards d'années. Et ça, ça nous donne, figure-toi, la taille de l'univers qu'on peut voir. Parce qu'on ne peut pas voir plus loin que la distance que la lumière peut parcourir depuis que notre univers existe, en gros. Et ça, ça nous fait une distance qui fait 13,8 milliards d'années-lumière. C'est la distance que la lumière peut parcourir depuis que notre univers existe. Et alors aujourd'hui, il est encore plus grand que ça, parce qu'il a continué à grandir. Mais en gros, c'est ça qu'on voit autour de nous.
Eh bien, merci pour cet exercice de vulgarisation. Et je renvoie donc à votre podcast aussi, Les Explorateurs de l'Univers, qui sort aujourd'hui. On va en écouter un extrait.
Tu tombes là, tu sais. Tu as peut-être l'impression de ne pas bouger, mais tu tombes, sans t'arrêter, vers la Terre. C'est comme ça dans l'espace. Quand tu es près d'une planète, forcément, tu tombes vers elle. Tu n'as peut-être pas l'impression de bouger, mais tu tombes quand même, tout le temps. Tu accélères même, et ça ne fait pas de bruit. C'est le silence. Rien ne vient te freiner. Mais tout à coup, dès que tu te rapproches un petit peu trop, dès que tu entres dans l'atmosphère de la Terre, il y a de l'air fait de poussière et de gaz. Et cet air, tu viens de rentrer dedans, à une vitesse folle. Et il frotte contre ta combinaison qui se met à chauffer et à rougir, tout comme l'air qui t'entoure, et tu laisses une jolie traînée derrière toi dans le ciel.
Voilà donc pour cet extrait des Explorateurs de l'Univers, le podcast disponible à partir d'aujourd'hui sur l'appli Radio France. Vous en êtes l'auteur, Christophe Galfard, avec Karen Day à la réalisation. Pas mal de questions aussi ce soir, par écrit, tiens, concernant les exoplanètes. Je vais me retourner vers vous, Magali Deleuil. Une exoplanète, c'est quoi? C'est une planète qui en orbite autour d'une autre étoile que notre Soleil. On sort de notre système solaire. Combien d'exoplanètes ont été identifiées à ce jour?
Alors d'abord, bravo, oui, la définition est tout à fait exacte. Et bon, en gros, on est à 5900 exoplanètes et quelque chose, quoi. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est proche des 6000 exoplanètes qui ont été identifiées, puis d'autres pour lesquelles... sur lesquels on est encore en train de travailler comme exoplanètes potentielles, on va dire.
Et ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à 1995, c'est-à-dire jusqu'à hier, affirmer que des planètes pouvaient exister hors de notre système solaire, c'était juste une hypothèse. Qu'est-ce qui a donc fait accélérer la science ces dernières années sur les exoplanètes ?
Je crois que clairement, c'est la publication de Michel Mayor et Didier Queloz en 1995 qui ont effectivement observé pendant plusieurs mois une même étoile. Ils ont trouvé un mouvement, que cette étoile présentait un mouvement périodique très régulier. Et ce signal qui correspondait à une variation de la vitesse de l'étoile sur notre ligne de visée, donc était périodique avec une période orbitale très courte en fait, une périodicité très courte de 4 jours et demi. Et ils ont analysé ce signal, ils ont essayé de l'interpréter par différentes façons. Ils ont cherché s'il pouvait avoir un phénomène stellaire, intrinsèque à l'étoile qui pouvait expliquer ce signal. Et en fait, la seule hypothèse qui tenait, c'était le fait qu'ils observaient là l'effet de la présence d'une planète. Et comme en fait, quand il y a une planète et une étoile, ça veut dire qu'on a deux corps massifs en présence. À partir du moment où on a ces deux corps massifs en présence, ça veut dire qu'il y a un effet, donc c'est un effet gravitationnel. Et c'est pas seulement la planète qui tourne, on dit nous tournons autour de notre étoile, en fait c'est pas complètement correct, nous tournons autour du centre de masse, du point fictif dans le qui correspond là où les masses s'équilibrent dans le système solaire. Et là, c'est le même cas pour cette planète qui s'appelle 51 Peg B, du nom de son étoile. Et donc, en fait, la planète tourne autour de ce centre, de ce point fictif, de ce centre qui correspond à la zone de l'espace où les masses sont équilibrées, et l'étoile également.
Merci.
Donc on Magali ne observe pas directement la planète, mais on observe le mouvement de l'étoile autour de ce centre fictif, oui.
Magali Deloye, puisqu'il y en a plus de 6000 désormais, qu'est-ce que vous faites, vous ? Vous augmentez le catalogue ou bien à un moment donné, vous cherchez à en connaître un peu mieux certaines ? Et dans ce cas, comment faites-vous pour identifier les meilleures cibles ? Qu'est-ce que vous voulez savoir avec ces exoplanètes-là ?
Ben, un petit peu les deux, j'ai envie de vous dire. Les objets qu'on a découverts, ce sont des objets qui n'ont pas vraiment d'équivalent dans le système solaire. On a des planètes rocheuses plus grosses que la Terre. On a des planètes qui sont un petit peu les mêmes propriétés que Neptune, des mini-Neptunes très près de l'étoile, ou des grosses planètes beaucoup plus grosses que Jupiter, mais également très proches de leur étoile. Et donc ça, on ne comprend pas encore bien comment une telle diversité de planètes a pu se former. Donc ça, c'est une première chose. Donc pour ces planètes-là, on essaie d'en comprendre les propriétés, d'en déterminer les propriétés donc, de leur atmosphère, les propriétés aussi, j'ai envie de dire, de leur mouvement, qui nous apprennent quelque chose sur leur formation. Donc il y a à la fois explorer leurs propriétés, puis en même temps essayer de trouver des planètes un petit peu comme la Terre, parce que celles-ci, on ne les a toujours pas trouvées, en fait.
On va retourner au standard. Enora, tu as 9 ans, Enora. Bonsoir.
Oui, alors, je voudrais savoir comment l'univers a été créé.
Ah ben voilà, je pensais qu'il y avait un gros Big Bang. On va poser la question à nos spécialistes autour de la table. On va commencer par Léa Gritton-Noël. Comment l'univers a été créé ? Le Big Bang, ça tient toujours ou pas ?
Oui, je crois que pour l'instant, on n'a pas mieux hein, comme explication pour l'instant. Mais Big Bang, c'est vrai que moi, quand j'étais petite, j'avais une vision comme une grosse explosion. Aujourd'hui, on sait que par contre, ce n'était pas forcément exactement une grosse explosion. Enfin, comme... je me l'imaginais quand j'avais l'âge d'Enora. Et en tout cas, Enora, je te félicite parce que voilà, en tant que jeune fille, que tu t'intéresses à l'astronomie, je profite avant de passer le micro à mon collègue que bravo et continue à t'intéresser à tout ça parce que on a besoin de jeunes étudiantes pour faire de la science en général. Et donc, tu seras la bienvenue à l'université dans quelques années.
Christophe Galfard, je vous renvoie la question. Comment l'univers a-t-il été créé ?
Alors, la réponse simple, c'est qu'on n'en a strictement aucune idée. La réponse un peu plus rigolote, c'est qu'il y a plein de réponses possibles. Et ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on commence à avoir des réponses à cette question. C'est un peu comme les exoplanètes, là, depuis Kello et Taylor, c'est nouveau, hein, des planètes comme ça. Et ben, l'idée même que notre univers puisse avoir une histoire, c'est récent. Ça date d'à peine 100 ans. Et encore, personne n'y croyait vraiment. Hein, c'était en particulier un chanoine belge qui s'appelle Georges Lemaître, qui s'est dit, si notre univers bouge, si les distances peuvent changer, alors il peut avoir une histoire et donc un début. Qu'on a appelé le Big Bang. Et comme je disais tout à l'heure, si on regarde toutes les étoiles qui s'éloignent de nous et qu'on fait le film à l'envers, on peut se dire qu'il y a un moment, tout était dans un endroit tellement minuscule, tellement petit, qu'il y avait des milliards et des milliards et des milliards de degrés, et c'est là qu'est né, que sont nés l'espace et le temps. Alors tout à l'heure, on parlait de l'espace, de l'univers sans bord. Quelque chose qui est sans bord. Et bien ça, c'était la première fois.
À la fois limité, illimité et sans bord.
J'ai pas précisé encore,
parce que c'est ça qui est surprenant.
C'est un bord qui est pas si évident que ça. C'est pas un bord comme le bord d'une casserole ou quelque chose. C'est un bord qui est un peu dans nos têtes, qu'on imagine quand on essaye de remonter dans le temps. Et cette idée-là est arrivée dans les années 1980. C'était la première fois, c'était Stephen Hawking, une fois de plus, avec son collègue Jim Hartle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a deux scientifiques qui se sont dit « si ça se trouve, on peut mathématiquement créer un univers à partir de rien du tout ». Juste à partir d'une apparition d'énergie qui aurait eu lieu à un certain moment, et mathématiquement, on pourrait essayer de le démontrer. Et c'est devenu ce qu'on a appelé l'univers sans bord, une condition d'univers initial. Alors, c'est pas dit que ce soit la bonne, le bon début de notre univers.
Moi qui vais vous contredire de toute façon ce soir.
Mais c'était la première fois qu'on avait une idée.
Et est-ce que Einstein, en 1915, avait déjà tout compris et finalement les découvertes corroborent ce qu'il avait déjà mis en évidence avec sa théorie de la relativité ?
Alors, la théorie de la relativité, c'est une équation. C'est-à-dire que ça va nous donner des contraintes si on veut imaginer un univers dans notre tête. Si on se dit « Ah, ben, l'univers, il ressemble à quoi ?» Eh ben, Einstein nous a dit « Moi, j'imagine que pour qu'un univers existe, il faut qu'il obéisse à telle propriété, telle équation qu'on appelle les équations d'Einstein. » C'est partie des plus belles équations qu'on a aujourd'hui, c'est les équations de la gravitation. Et du coup, ces équations en elles-mêmes ne donnent pas de solution. C'est à partir de ces équations qu'on imagine des univers possibles. Mais à l'intérieur de ces équations, on peut quand même voir des propriétés de notre univers, du style des ondes gravitationnelles dont on parlait tout à l'heure, qui étaient prévues, prédites par cette équation-là et beaucoup d'autres choses encore.
Sophie Becherel.
Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est nos trois invités, en fait, ils travaillent à partir de théories. Il y a encore pas mal de théories en astrophysique. Et puis, il y a des outils, des instruments pour essayer de les vérifier. Et en fait, les ondes gravitationnelles, c'est vrai que c'est très, très récent. Elles ont été prédites. Et puis, 2015, ça fait 10 ans seulement qu'on a vu les premières. C'est comme ça que ça marche. Je dis ça pour les enfants qui nous écoutent, c'est qu'il y a encore pas mal de questions d'inconnus dans vos disciplines. Voilà, les agritons de Noël, vous allez nous dire lesquelles.
Et puis alors, je voudrais aussi dire que moi, par exemple, justement, la cosmologie, ça m'a toujours fait peur. Juste pour rassurer aussi,
la
peut-être.
La cosmologie, c'est donc l'histoire de l'univers.
Voilà, la cosmologie, c'est quand on se dit l'univers, c'est une grosse boîte, j'exagère, mais on voit comment elle évolue dans le temps. Est-ce qu'elle était plus petite? Est-ce qu'elle était plus grosse? Est-ce qu'elle a des bords? Est-ce qu'elle a pas de bords? Et moi, quand j'étais à l'école, ça me faisait peur. J'aime
Pourquoi
beaucoup.
Parce que trop difficile ?
Parce que j'arrivais pas à m'imaginer, justement. Et moi, j'ai besoin de choses concrètes. J'ai besoin de pouvoir mesurer des choses, un peu comme à l'école, on fait des expériences. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Moi, je voulais des choses concrètes à regarder. Et c'est pour ça que je me suis tournée vers la science du système solaire, parce qu'on parle beaucoup avec les enfants de trous noirs, de galaxies, etc. Alors que c'est quand même les objets de physique très les plus difficilement compréhensibles, même par des adultes.
Concevables.
Enfin, voilà, concevables, merci beaucoup. Et en fait, il y a énormément de domaines de l'astronomie qui sont beaucoup moins connus du grand public, et des enfants en particulier, alors qui nécessitent d'autres compétences, ou alors peut-être... Enfin, c'est aussi des mathématiques. De toute façon, les mathématiques, c'est notre langage, comme on parlerait... Enfin, on parle anglais, d'ailleurs, au bureau, tout le temps, et on parle en mathématiques, on pourrait dire ça. Mais moi, je mesure des choses sur des planètes qu'on peut voir, soit à l'œil nu, soit au télescope, voilà.
Et sur lesquelles on ne sait pas grand-chose, c'est le cas d'Uranus.
On ne sait pas grand-chose, c'est pour ça que, voilà, avant d'aller voir les trous noirs, etc. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas voir les trous noirs, il faut voir tout. Mais il y a autre chose que les trous noirs.
On conviendrait qu'il est assez difficile d'envisager à la fois un objet avec des bords, mais qui soit en même temps illimité. J'essaye de réfléchir là-dessus depuis tout à l'heure, j'y suis pas encore arrivé.
En fait, l'idée, c'est par exemple, si vous imaginez une boule, vous pourriez marcher continuellement sur la boule, vous ne verriez pas vraiment de bord, enfin, vous ne voyez pas de limite. Et en même temps, c'est fini comme objet. Enfin,
merci de cette précision.
C'est une petite métaphore pour vous expliquer.
Ce soir, France Inter continue d'explorer l'univers.
France Inter, le téléphone sonne.
Notre auditeur a 11 ans. Max, bonsoir.
Bonsoir. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers ? Merci.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de l'univers ? En philosophie, il faudra d'abord définir le concept. D'abord, l'univers, fini ou pas fini ?
En physique aussi.
En physique aussi. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cet univers ?
Je me lance.
Allez-y.
Alors... C'est très bien dit. Ça dépend ce qu'on appelle l'univers. Mais disons que l'univers, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on arrive à voir, ou qu'on pourrait voir, même si on n'est pas assez fort aujourd'hui, mais qu'on pourrait voir un jour. Si on appelle l'univers ça, eh bien, on peut tout à fait considérer que notre Terre, notre planète, c'est un peu comme un bateau sur l'océan. Une petite barque qui serait sur l'océan. Bon, ben, quand on est au milieu de l'océan, il y a un horizon autour de nous, on ne peut pas voir plus loin. Et bien ça, c'est pareil dans l'univers. On a un horizon, on ne peut pas voir plus loin. Maintenant, sur une barque, sur l'océan, dans notre barque, on peut très bien bouger notre barque ou regarder quelqu'un qui est un peu plus loin, qui aura un autre horizon et qui verrait donc des vagues qui sont plus loin que les nôtres, au-delà de notre horizon. Bah, dans l'univers, on peut dire que c'est un peu pareil. Des gens qui seraient plus loin, bah, ils verraient plus loin que notre horizon d'un côté et puis moins loin de l'autre. Et du coup, on peut tout à fait imaginer une continuité d'univers, qui comme si des barques qui vont d'un océan à un autre et qui géreraient notre univers tout entier. Donc ça, c'est une manière de voir ce qu'il pourrait y avoir au-delà de notre univers, de notre horizon à nous.
Le temps presse. Je vais me retourner vers Magali Deloye avec des questions encore sur les télescopes. Parlez-nous, Magali Deloye, de ce télescope Luvoir, peut-être le plus gros télescope spatial jamais construit, qui permettrait à la fois d'étudier les exoplanètes et aussi pourquoi pas de détecter la vie extraterrestre. Il y a un objectif à ça dans quelques dizaines d'années?
Bon, alors je crois que 10 ans, c'est peut-être un petit peu optimiste, hein, mais entre-temps, l'instrument a été un peu revu aussi, sur des tailles un petit peu plus modestes. Mais l'idée, c'est d'arriver à concevoir effectivement un télescope qui permette, à l'horizon de, disons, peut-être 20, 30 ans, de nous donner un peu des indices si, oui ou non, sur une planète donnée, il est possible que la vie soit présente.
Parce que l'objectif, c'est finalement ça, c'est de savoir à chaque fois s'il y a une vie ailleurs. C'est ce qui motive les chercheurs et chercheuses.
Je crois que ça reste même une question que, après tout, on se pose un peu tous, ou qu'il y a beaucoup de monde qui se pose, ne serait-ce que quand on regarde les étoiles la nuit, on voit des points qui brillent, on voit... Et puis, si on sait qu'il y a des planètes dans l'univers, on se dit, oui, mais ces étoiles-là qu'on voit là à l'œil nu, est-ce qu'il y a une planète autour? Et s'il y a une planète, eh ben, on se projette un petit peu, quoi. On aimerait savoir si la vie existe ailleurs, si elle a pu se développer. Voilà, c'est une question, j'ai envie de dire, presque assez humaine, en quelque sorte. Et pour l'instant, on n'est pas capable de répondre.
Une dernière question, Christophe Galfard, vous avez parlé de Stephen Hawking, avec qui vous avez travaillé. Il faut rappeler à ceux qui n'ont pas écouté l'antenne ce matin, chez Ali Badou et Marion Lourd, il faut rappeler peut-être qui était ce physicien, théoricien de référence, rappeler qui était ce scientifique avec un cerveau hors du commun, prisonnier d'un corps très très paralysé.
Bah, c'est un des grands chercheurs du XXe siècle, hein, de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est à l'origine plus ou moins de nos visions du Big Bang, de nos visions de ce que sont les trous noirs, de la recherche théorique un petit peu dans tous les domaines possibles aujourd'hui. Il était à la base de tout ça. Il a un peu façonné son époque, et effectivement, il était atteint de la maladie de Charcot qu'il a étonnamment gardé pendant plus de 50 ans avec lui.
Sophie,
est-ce que vous me permettez de poser à chacun de nos invités une question?
Il nous reste très peu de temps. Ouais. Hein.
Si on vous donnait un budget illimité, quelle mission scientifique vous développeriez ou à quelle question vous voudriez répondre? Je dis ça à une époque où la NASA voit son budget beaucoup rétréci et notamment la moitié des missions scientifiques sont compromises pour l'avenir.
Moi,
vous,
premier,
Christophe Galfard.
Est-ce qu'on a le droit de choisir des gens et les envoyer dans l'espace pour pas qu'ils reviennent?
D'accord.
Pourquoi pas?
Vous, Léa Gritton.
Léa Gritton Noël.
Bah, moi, en tout cas, je pense que si j'avais un budget illimité, je ferais surtout attention à ce que justement il y ait plus de personnes qui ne soient pas que des hommes blancs qui puissent faire de l'astronomie. Et parce que justement, juste une petite remarque, depuis ce matin, on a dit des noms, entre les noms de télescopes, les noms de chercheurs, les noms, etc. On a dû dire 25 noms d'hommes pour un nom de femme. Et donc aujourd'hui, j'espère qu'on va aller vers une vulgarisation, et quand on explique l'univers aux enfants, de pas oublier que justement, bah, il y a pas que, parce qu'Einstein, tout le monde en parle beaucoup, mais c'était un horrible type. Enfin, je vais pas dire, mais en termes de mari, de papa, sur le plan de la vie personnelle, c'est franchement pas un modèle.
Votre modèle à vous, féminin, alors?
Ah bah moi, mon modèle, c'est toutes mes collègues, Magali par exemple, qui sont un petit peu plus âgées que moi et qui arrivent
il
à faire des.
Quelques secondes, on va donner la parole à Magali. Formidable. Magali Deloye, vous avez un budget, vous faites quoi?
Ah, je crois que je ferai la mission dont vous avez parlé tout à l'heure. J'essaie de trouver des indices que la vue a pu se développer peut-être ailleurs.
Merci. Et puis, oui. Beaucoup à tous les quatre.
Merci à vous.
Et je renvoie donc au podcast, à ce podcast disponible à partir d'aujourd'hui sur l'appli Radio France, Les Explorateurs de l'Univers, dont vous êtes l'auteur, Christophe Galfard, avec Karen Delay à la réalisation. Et pour ceux qui veulent venir vous voir, discuter avec vous, vous rencontrer, je précise que vous serez en conférence à Fontainebleau les 14
le 10 juin et 14 et 15 juin à Paris, dans les cinémas MK2.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup.